Alexandra Richler avec RTS Première.
Après l'effondrement du glacier au-dessus de Blaton, le canton du Valais a assuré des moyens et des forces d'intervention supplémentaires pour aider le village en grande partie détruit. Des troupes de la protection civile sont engagées. Le Conseil d'État a demandé à l'armée de fournir des pompes pour sécuriser le lit de la rivière, des appareils de déblaiement et des mâts d'éclairage. Le glacier du Birch qui s'est effondré cet après-midi vers 15h30, une personne est portée disparue. La population de Blaton doit avoir un avenir dans le Lütschental, les mots du conseiller fédéral Albert Rösti. Il promet que les travaux de reconstruction vont débuter rapidement. La Confédération va faire tout son possible pour y contribuer, en collaboration entre le canton, la commune et la Confédération. La nature est plus forte que l'humain, tous les montagnards le savent, a ajouté Albert Rösti devant la presse tout à l'heure. En France, Joël Le Squarnec est condamné à la peine maximale, 20 ans de réclusion criminelle, dont 2/3 de peine de sûreté. L'ancien chirurgien a été reconnu coupable de viol et agression sexuelle sur près de 300 victimes, la plupart mineures. Les attaques russes par drone dans la région de Kherson depuis juillet dernier sont des crimes contre l'humanité. La conclusion de la commission d'enquête internationale sur l'Ukraine, elle estime que Moscou n'a pas cherché à éviter des meurtres de civils. Les victimes ont été ciblées alors qu'elles sortaient pour des activités normales. Selon la commission, les opérateurs de drones ont vu par vidéo que ces personnes étaient des civils. Et la Russie propose à l'Ukraine une deuxième séance de pourparlers directs à Istanbul le 2 juin. Elle entend transmettre son mémorandum qui est censé exposer les conditions russes pour un accord de paix durable. Pour l'heure, l'Ukraine n'a pas réagi à cette proposition. L'Eurovision confirme sa place de plus grand télécrochet du monde et de rendez-vous majeur de la télévision mondiale. L'édition 2025 à Bâle a comptabilisé 166 millions de téléspectateurs et téléspectatrices dans 37 pays. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Union européenne de radio-télévision, ce sont 3 millions de personnes de plus par rapport à l'année dernière qui ont suivi les demi-finales et la finale le 17 mai avec la victoire du contre-ténor autrichien JJ. C'est aussi le plus grand record d'audience depuis 2004 pour la finale et la part de jeunes de 15 à 24 ans est importante, 60%. Un mot de météo encore, la pluie ce soir et pour une partie de la nuit encore. Demain s'annonce bien ensoleillé. Quelques nuages pourraient s'attarder tout au nord de la Suisse et en direction de la Suisse alémanique. Il fera 12 degrés au petit matin jusqu'à 23 dans la journée. Vendredi, grand soleil et les températures grimpent. 28 degrés, 30 en Valais et dans l'ouest lémanique.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Jean-Marc Richard.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Une ligne de cœur placée sous le signe de « On fait quoi après l'école ?» Alors quand on dit ça, on pense peut-être à « On sort à 16h, on n'a pas trop de devoirs à la maison ». Mais ça c'était dans le passé, parce que je crois qu'aujourd'hui on a beaucoup de devoirs à la maison, mais on n'a pas trop de devoirs à la maison, ou c'est congé demain, donc qu'est-ce qu'on va faire après l'école? On pense tout de suite à ça, on pense évidemment à « Ah oui, on va sortir, ou bien on va aller un peu gamer ici ou là, on va aller se retrouver avec des copains sur la toile, ou éventuellement dans la rue ». Mais en fait, non. Oui, on peut aussi parler de ça, mais non. On va plutôt parler de l'école au sens scolarité dite obligatoire et sortie de scolarité obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on pose déjà, je pense, cette question aux enfants à peine quand ils sont nés. J'exagère un peu, mais les orientations, tu dois faire un choix, c'est important, que tu saches ce que tu veux faire dans la vie. On entendait des choses effroyables comme attention, parce que si tu fais pas le bon choix, tu vas finir balayeur, par exemple, alors qu'il y a aucune raison de stigmatiser le travail des balayeurs, qui est tout à fait remarquable. Si nos rues sont aussi propres, c'est grâce à elles et grâce à eux. Mais c'était un peu le discours qu'on entendait, et je sais pas si on en entend encore aujourd'hui. On en discutera avec les jeunes qui sont autour de cette table. Alors après l'école, on fait quoi? C'est-à-dire après la scolarité obligatoire, qu'est-ce qu'on fait? Si, par exemple, on sort de l'école et qu'on n'a pas de perspective, au sens que, ben, avec le certificat ou le papier qu'on a, on peut pas nécessairement directement aller au gymnase, ou il faut qu'on trouve un apprentissage, ou des fois, il y a des fragilités, il y a des situations d'exclusion, de rejet, enfin, toutes ces réalités font que des chiffres avaient été donnés en Suisse, qu'un jeune sur 20 à la sortie de l'école n'avait pas de perspective, ce qui est tout de même assez inquiétant dans un pays où tout est censé être organisé pour que on entre assez rapidement dans le monde du travail ou dans le cadre des études. C'est une réalité et ça va pas aller en s'améliorant, ça on le sait, pour plein de raisons qu'on évoquera peut-être ce soir. Alors, dans la ligne de cœur, on s'est dit qu'avec cette semaine autour de la transition, il fallait qu'on parle de cette transition-là. Bien sûr qu'on pourrait aussi parler de la transition à l'adolescence, qui parfois, disons, rejoint cette préoccupation aussi de sortie d'école obligatoire et de perspective. Mais pour nous, c'était important de donner la parole à des jeunes et des moins jeunes, et de vous donner la parole, vous qui nous écoutez, pour nous raconter, alors, comment vous vivez cette transition, peut-être parce que vous avez l'âge d'être dans cet état de transition, ou en tant que parent. Parfois, peut-être même en tant que grands-parents, parce qu'on sait le rôle que jouent les grands-parents aujourd'hui, est très important. Donc déjà, en tant que parents, fondamentalement, comment vivez-vous toute cette période de transition qui vous concerne directement, mais évidemment qui est vécue principalement par vos enfants? Donc on attend vos témoignages, évidemment, si c'est le cas en ce moment, ou si c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez affronté, que vous avez pu solutionner, ou alors pas du tout. Peut-être que ça s'est mal passé et que c'est encore une cicatrice bien ouverte pour les enfants que vous n'êtes plus, mais que vous étiez, et pour les parents que vous êtes toujours. N'hésitez pas donc à nous appeler au 0800 87 07 07. Alors, tout à l'heure, nous aurons Laure au bout du fil, mais je voudrais quand même vous lire son message, parce que c'est une des particularités de cette sortie de la scolarité qui fait qu'on peut être très fortement fragilisé, pour plein de raisons différentes. Ça peut être par exemple lié à des troubles du spectre de l'autisme, ça peut être lié à des troubles de l'attention. Je vous lis en toute simplicité le message de cette maman qui s'appelle Laure. La soirée de mercredi, l'école et après me parlent, puisque maman de deux artistes de 18 et 15 ans. Sur le papier, ils sont tous les deux troubles du spectre de l'autisme et troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Luca, qui a 18 ans, entrera en quatrième année d'apprentissage avec le projet d'une maturité pro juste derrière. Clara, 15 ans, quant à elle, est actuellement hospitalisée dans un service psy pour adolescents, pour dépression et syndrome post-traumatique. Pour elle, l'école, c'est l'enfer. Que proposer à ces jeunes en grande souffrance? Quel avenir lorsque le quotidien n'est fait que d'échecs et agressions? Voici, ou voilà, l'exemple de deux enfants élevés pareil, aimés pareil, et pourtant l'avenir de Clara s'annonce bien sombre et fait peser un poids psychologique sur moi, sa maman. Laure, si tout va bien, sera là au téléphone. On pourra en parler plus en détail avec elle, mais je vais me tourner vers nos invités. Autour de cette table, grande, très grande table aujourd'hui, d'abord vers vous, Ella et Fata, vous avez 23 ans, vous êtes assistante du projet, de ce projet Après l'école on fait quoi, qui est un guide pour en parler. Vous êtes ancienne présidente du conseil, ça fait quand même bizarre, 23 ans quand on dit je suis une ancienne présidente du conseil des jeunes, ça vous met un coup de vieux d'un coup, hein, quand même un petit peu. Fata, vous êtes donc, c'est votre prénom Fata, c'est Justin?
Non, c'est mon nom de famille.
Donc c'est Elai. Comme ça, je relance correctement. Elai, donc présidente du Conseil des jeunes de Lausanne. Tao, qui est apprenti technique au Centre de formation des services industriels et qui est là avec nous aussi aujourd'hui. Lucas, qui n'a pas tout à fait fini sa scolarité puisqu'il a été, qu'est-ce qu'on dit ?
Exclu,
voilà. Donc avec un parcours sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et il fait de la radio. avec le bus, radiobus.
Radiobus, oui.
Voilà, donc un peu d'expérience. Aymeric Serror qui, lui, est un jeune homme qui a passé par l'école de la transition et qui a commencé maintenant une formation pour être illustrateur.
Animateur 2D.
Ouais, alors voilà.
C'est pas exactement la même chose.
Ouais, oui, c'est juste. Vous avez raison, parce que l'animateur 2D, il fait pas sur des bandes dessinées, c'est ça?
Non, c'est différent.
D'accord, très bien. Et puis, on a avec nous des un peu moins jeunes qui sont très impliqués dans cette aventure. Virginie Huguet, qui est responsable de la transition école-métier. Et puis, Delphine Cortési, responsable de la prévention. Delphine, qui est adjointe au chef de service quartier jeunesse et famille de la ville de Lausanne. Direction enfants, jeunesse et quartier. Et Marjorie Chalère, qui est maman de jeunes qui sont en pleine période de transition. Je dis ça, mais ça se voit pas. Elle n'a pas l'air trop fatiguée encore, la maman. Et on aura tout à l'heure, au bout du fil, la présidente de l'Association des parents d'élèves de Lausanne et la directrice du site Tiao.ch qui joue un rôle extrêmement important en matière de relais des préoccupations des jeunes, mais aussi de prévention. Voilà, ça c'est pour vous planter le décor. On va accueillir les premiers téléphones et les premiers témoignages dans quelques instants. On va parler avec vous de cette transition avec grand plaisir, mais on va aussi écouter de la musique. Alors, je ne sais pas si c'est de la musique très jeune. Indochine, c'est plutôt ma génération, mais ils sont encore très d'actualité. Donc ça tombe bien, on fait le lien. Faire un pont pour de bon.
Serai là sur un tapis volant.
Le groupe Indochine, ils ont plus vraiment l'âge de se poser cette question après l'école, on fait quoi? Mais apparemment, ça vieillit pas Indochine puisqu'on continue à l'écouter, y compris chez les jeunes. Un petit mot de Jacqueline qui est arrivée au 076-318-9649, 076-318-9649. Elle nous dit « J'ai une pensée pour les habitants de Blatone qui vivent des moments si difficiles, courage à eux ». On s'associe à ce message de Jacqueline et déjà quelques questions sont arrivées à propos de ce que veut, peut ou va faire la chaîne du bonheur. Alors elle a déjà ouvert son compte Intempéries en Suisse. Et évidemment, vous pouvez aller sur la page bonheur.ch pour faire des dons, www.bonheur.ch, et vous trouverez les informations qui vous expliqueront clairement que la chaîne du bonheur fait le travail complémentaire de ce que doit faire l'État du Valais, la Confédération et surtout les assurances qui doivent faire leur boulot. On paye quand même des cotisations assez élevées, donc la chaîne du bonheur est là et pourra déjà intervenir rapidement s'il y a besoin, comme ça a été le cas dans d'autres catastrophes comme à Sierre récemment. Voilà, comme ça vous avez ces informations de vive voix. Après l'école, on fait quoi? Bonsoir Laure, merci d'être là.
Bonsoir.
Je suis très content que vous soyez là pour ouvrir avec nous cette soirée. On a lu votre message tout à l'heure, je l'ai lu aussi à nos invités évidemment. On était très touchés par ce que vous vivez, par cette différence entre ce que Lucas vit et de ce que Clara vit. Ça vous interpelle? Comme maman, vous vous dites, vous vous posez des questions sur cette différence?
Non, il y a une différence essentielle, c'est les difficultés scolaires que Clara a et que son frère n'a pas eu et n'a pas, parce qu'il n'a pas de 10 et pour lui, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Et il est en apprentissage et ce n'est pas parce qu'il est maintenant en apprentissage qu'après, il trouvera un emploi stable. On est bien d'accord. Les TSA, voilà, il n'y a aucune étude qui a été menée, mais on sait très bien que les TSA et emploi, ça va des fois pas de pair, quoi.
Clara, vous le dites à 15 ans, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore arrivée au bout de sa scolarité obligatoire ou c'est déjà terminé?
Non, elle est en 10e année.
Et comment elle-même vit-elle cela? Cette hospitalisation dans un service, alors, comment elle le vit?
Oui, alors, c'est, au départ, c'était elle qui l'a demandé, parce qu'elle voyait très bien que ça allait plus, c'était plus possible pour elle ni pour nous. Donc ça n'a pas été facile, hein. Voilà, on l'emmène, on la dépose devant la porte, et on lui dit au revoir, et on sait que pendant les 3 ou 4 premiers jours, on n'a aucun contact avec elle, donc on le sait d'avance, bien sûr. Mais c'était dramatique, quoi. C'est comme si d'ailleurs, elle m'a dit, mais tu m'as mis à la poubelle. C'est elle-même qui m'a dit, mais tu m'as mis à la poubelle. Donc, et là, maintenant, ça fait 3 semaines qu'elle y est. Donc, on voit quand même une différence, on voit des progrès. Et c'est là qu'on se dit que oui, on a pris la bonne décision, même si elle n'était pas facile.
C'était pour Clara l'école qui était un enfer?
C'était l'école. Je pense qu'à 15 ans, on se pose beaucoup de questions. Il y a aussi la relation avec son papa qui n'est pas facile. Et là, c'était le trop-plein avec du harcèlement scolaire, avec cette différence qui est de plus en plus frappante et qui se voit. Et qui, pour elle, était quelque chose qu'elle avait du mal de vivre.
Alors, vous nous posez la question, que proposer à ces jeunes en grande souffrance, évidemment? Alors, on va peut-être essayer d'esquisser quelques pistes sur ce qui se fait dans une ville comme Lausanne, à travers ce guide qui est là et qui s'adresse peut-être à des jeunes qui se retrouvent comme ça, sans perspective ou avec des ruptures. Vous, comment vous tenez le coup? Je vous pose la question à vous, Laure, parce que c'est quand même dur de vivre ces moments.
Ah, c'est clair que c'est pas facile, et puis c'est justement la période où on est censé faire un choix professionnel, et là on en est encore loin. Alors elle a que 15 ans, donc on peut encore prolonger la scolarité, mais c'est tellement douloureux cette scolarité que je veux pas encore lui infliger une année ou deux de plus si on a le choix de faire autre chose ou de faire autrement. Et avec encore des problèmes de santé associés qui... Voilà, qui nous font nous poser la question dans quelle branche professionnelle elle pourra se diriger pour s'épanouir, pour que ça joue avec ses problèmes de santé. Et là, on est vraiment dans une période où on peut encore pas dire dans quelle dans quelle branche elle pourrait vraiment. Donc on perd pas espoir, c'est clair. Mais voilà, on est dans un canton, on n'est pas dans le canton de Vaud. Ici, on est dans le canton du Jura. Et les moyens sont quand même autres que la ville de Lausanne, par exemple. Ou...
Que la ville de Lausanne met à disposition, c'est ça.
Et
juste une question, Laure. En fait, là, on est avec Lara dans une situation où il faut trouver des solutions pour l'aider à avancer. Mais avant ça, il y a eu le harcèlement scolaire, il y a eu toutes ces choses-là. Vous vous êtes senti très vite très seule face à tout ça ou vous avez pu être accompagnée ou aidée?
Non, très vite très seule. Parce qu'on alerte, on dit attention. Faites gaffe, ça va pas. Alors l'école est super réactive, super, mais le service d'enseignement est un milieu de des problèmes des élèves. Et l'assurance invalidité rentre pas en matière pour le moment parce que la nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle loi, c'est pas un droit, c'est une mesure. C'est-à-dire que c'est à l'approbation, c'est à la tête du client et les mesures professionnelles. À partir de 13 ans. Et nous, quand elle a eu 13 ans, on s'est dit, on fait la demande parce qu'on sait que ça va être difficile. Et là, elle a 15 ans et on nous a refusé trois fois les mesures. Donc on est seul, quoi. On se sent pas soutenu.
Je vais demander à Marjorie Chalère, qui est maman, qui a des enfants qui ont à peu près l'âge de vos enfants, un tout petit peu plus jeunes, je crois, mais même pas tellement. Hein.
Non,
ils ont cet âge-là. Comment vous réagissez en entendant le témoignage de Laure?
Eh ben, l'école, c'est quand même un parcours assez compliqué. Ce que j'aimerais dire à madame, c'est que Clara, elle a eu beaucoup de courage de pouvoir dire « j'ai besoin d'aide » et puis « il faut que je passe par là ». Et j'ai quand même, je trouve important de vous dire que tout chemin mène à Rome et puis il faut garder courage et puis il y a des moyens. J'ai pensé à ça, mais après je sais pas si dans le Jura ça existe, mais il y a l'école à domicile. Peut-être que il y a des enfants qui arrivent pas à être dans ce cadre scolaire direct et puis il y a d'autres moyen. Et puis c'est ce qui explique aussi cette plateforme qu'on a que mes collègues ont pu mettre en place. Donc il y a plusieurs chemins et puis il faut pas se décourager parce que ce sera le chemin de votre fille et puis pas le chemin de tous les enfants mais celui de votre fille et puis peut-être qu'il sera un petit peu plus long. Mais il faut d'abord qu'elle commence par se soigner. Et puis moi, je pense que pour les jeunes, c'est la scolarité, c'est pas simple. Les places, il y en a pas énormément. Moi, j'ai vécu l'expérience aussi avec mon fils qui a 14 ans. Il a fini son école obligatoire et puis qui a postulé pour deux pré-apprentissages. Et puis qu'on lui a dit, mais t'es trop jeune, t'as 14 ans seulement, t'as du temps devant toi, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui sont trop jeunes puis qui ont commencé l'école à 4 ans tel que demandé par l'école obligatoire, quoi. Donc c'est vrai que moi, ce fut quand même un stress. Il est dyslexique avec un trouble de concentration et tutti quanti, mais il l'a pas redoublé. Il a fait son parcours, mais bon, on lui a dit qu'il était trop jeune, donc du coup... On est arrivé à le mettre à l'école de transition.
On parlera de l'école de transition, parce qu'il y en a qui l'ont fréquenté, l'école de transition. Laure, on sent ce que ça a pu représenter pour Marjorie comme pression, parce qu'il faut répondre à plein de questions à un moment donné. Est-ce que vous aviez une grosse pression et est-ce que vous avez réussi à ne pas mettre trop de pression sur vos enfants? Parce qu'à un moment donné, quand on a la pression, on se dit, mais il faut que ça bouge. Comment vous avez pu vivre ça?
Alors, c'est pas sur eux que je lui mette la pression. Je lui mette la pression sur l'école, sur l'assurance invalidité, sur les gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Mais oui, nous, on a, en tant que parents, c'est un truc qui peut m'empêcher de dormir. Parce que je vais retourner le problème dans tous les sens. Et oui, je suis sûre qu'on va arriver à Rome, qu'on va pas prendre l'autoroute. Et en passant, on va profiter du panorama. Mais en attendant, voilà, quoi. On se pose plein de questions, quoi.
Laure, vous avez quand même ressenti à un moment donné la pression sur la maman que vous êtes, par rapport à des enfants qui ont cette différence qu'on a évoquée tout à l'heure, ou bien vous avez su ou pu l'éviter, cette pression? Ça peut être le regard des autres, ça peut être l'école, ça peut être plein de choses.
À partir du moment où, je pense qu'on a des enfants qui sont un peu à part, on a de toute façon cette pression, que ce soit à l'école, que ce soit avec les copains, que ce soit... C'est super! L'intégration, enfin, c'est même pas l'intégration, de mettre des enfants différemment des classes, mais si on n'a pas les moyens derrière, c'est presque de la maltraitance, j'ai envie de dire. Mmh. Parce que leurs besoins, ils ne sont pas pris en compte. Mmh. Et ça commence à partir de là. Quand une enseignante fait lire un roman de 150 pages à une dyslexique qui n'arrive même pas à lire la première page et qui doit en plus faire un résumé devant la classe, pour moi, c'est juste de la maltraitance, quoi. Mmh. Et on a beau essayer d'expliquer... On sort à un mur, quoi.
En fait, en quelque sorte, en vous entendant, vos enfants, ils ont de la chance d'avoir une maman combative, quoi, parce que ça doit être lourd pour certains parents, et puis peut-être qu'ils baissent les bras, je suppose.
Ouais, alors moi, je suis pas prête à baisser les bras, même si des fois, je me dis, il y a un ras-le-bol, parce qu'elle a ici, après il y a ça. Après, le grand, il a 18 ans, donc on lui coupe ses prestations, parce que soi-disant, il a des troubles psychiques, alors qu'on sait très bien que le TSA, c'est pas des troubles psychiques. Donc, il faut faire des recours, il faut faire des papiers. Et des fois, je me dis, mince, quoi. Et puis, je me dis non, parce que c'est pas mon caractère. Et j'estime que, en fait, on n'a rien demandé, et eux non plus. Et on en a pris pour perpète. Nous parents comme eux. Donc, j'estime que, voilà, on doit se battre pour eux, quoi.
Moi, je ne sais pas si votre fille vous entend ce soir, mais moi, je vous trouve très courageuse. Ouais. Un mot, peut-être, en conclusion. Qu'est-ce que vous espérez pour votre fille? Votre fils, on sent que son chemin... Alors après, on peut parler, effectivement, des débouchés professionnels, la fin d'une formation professionnelle, c'est encore autre chose. Mais votre fille, qu'est-ce que vous espérez pour elle? J'utilise bien... le mot « espérer », parce que peut-être qu'à l'époque, on aurait utilisé le mot « vous voulez quoi pour votre fille ?» Mais là, je parle bien d'espérer.
Alors moi, j'espère juste qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve sa voie, peu importe dans quelle branche, mais vraiment qu'elle s'accepte telle qu'elle est, et finalement que ça en fasse une force, et qu'avec ça, elle arrive à se construire un projet professionnel, et voilà quoi. Peu importe dans quelle branche, peu importe combien elle gagne, peu importe à quel taux elle est capable de travailler, on s'en fiche, c'est juste qu'elle trouve sa voie.
Juste demander à Delphine Cortési de venir prendre la place de Marjorie Chalère 2 secondes, parce que comme on parle de santé mentale et de prévention, Delphine, je rappelle que vous êtes responsable de la prévention et vous êtes adjointe au chef de service quartier jeunesse et famille. J'imagine qu'un témoignage comme celui de Laure vous touche, parce que même si ça représente une minorité de jeunes, il y a des jeunes comme Carla qui effectivement sont en décrochage à un moment donné et pour qui les perspectives sont encore plus compliquées que pour d'autres, je suppose.
Oui, c'est pour des témoignages comme celui-ci qu'on a envie de faire de la prévention. Mmh. C'est pour des témoignages comme celui-ci, quand on parle avec des mamans ou des élèves qui ne sont pas bien dans leur basket, qu'on fait de la prévention, qu'on essaie de trouver avec eux des solutions, un accompagnement, qu'on discute. Mmh. Je crois que c'est toujours garder ce dialogue et garder ce lien. Elaï, qui travaille avec nous, me dit « n'oublie pas, quand on est jeune, on n'a pas la même vision ». Il faut pouvoir avoir ce lien, qu'on puisse en parler et puis mettre en place certaines choses.
Mmh. Et là, vous vouliez réagir au témoignage de Laure, la maman de Luca et de Carla.
Oui, y a plein de choses à dire, mais je pense aussi que y a des choses un petit peu évidentes qu'on peut rappeler aussi pour d'autres personnes qui se reconnaissent dans ce discours, c'est que chaque chemin est différent et que la santé mentale, c'est quelque chose de très compliqué à aborder pour les jeunes, parce que on est presque des fois plus alerte sur la question que les autres générations, parce que on a de la documentation et en fait c'est très facile finalement de tomber aussi dans des autodiagnostics et puis d'essayer de se ranger dans des cases et d'essayer de nager là-dedans et d'essayer de faire comprendre ça à d'autres générations. Puis on vit ça des fois comme des déchirements intérieurs. Alors là, en l'occurrence, Laure a l'air d'être très alerte par rapport à ces questions-là de TSA, troubles de l'attention, hyperactivité. Mais en fait, il y a un tout. Et c'est, je l'ai dit une fois il n'y a pas très longtemps, mais aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on trouve les informations sur ce qu'on veut, où on veut, puis finalement, on ne sait plus exactement comment trouver les réponses envers soi-même.
J'ai dit Carla, c'est Clara. Hein. On est bien
c'est
d'accord,
Clara.
Laure.
Ouais. Oui, c'est ça.
Vous êtes d'accord avec... l'analyse que fait Eli?
Oui, exactement. Et en fait, en tant que parent, si on voit que nos jeunes ils sont à la dérive, c'est de pas hésiter à demander de l'aide, quoi. Et c'est pas attendre qu'il y ait une tentative de suicide ou qu'il y ait quelque chose. Il faut être attentif et savoir passer la main à des professionnels quand nous, on est au bout de ce qu'on peut proposer.
Est-ce qu'on arrive à protéger ses enfants, sa fille en particulier dans le cas présent, face à la société, au monde professionnel? On entendra, j'imagine, encore de nombreuses années « mais tu vas faire quoi de ta vie ? Mais tu vas choisir quoi comme métier ? Faut pas que tu finisses dans la rue, enfin des choses comme ça. » Est-ce que vous arrivez à protéger Clara et à ce qu'elle ne subisse pas trop cette pression de la société, et peut-être même de certains professionnels, que ce soit enseignants ou pédagogues ou psychologues ou éducatrices ou éducateurs ?
C'est une bonne question. Je ne sais pas si vraiment la protéger, ça lui rendrait service, ou si elle doit se confronter à la réalité du monde pour... En fait, c'est en tout cas pas moi qui vais lui mettre la pression, c'est clair. Et à l'école non plus, parce qu'ils ont bien compris que ça ne servait à rien. Mais je pense, oui, que peut-être des gens un peu moins empathiques que nous pourraient faire des réflexions ou des choses comme ça.
Delphine, dans le guide, on en parle tout à l'heure, la première page du guide, c'est moi.
Avant,
je cherche, j'explore, mon réseau, j'y vais, je doute, c'est moi, c'est pas un hasard.
Oui, la campagne s'appelle « Après l'école, on fait quoi ?» Le « on », c'est bien moi et les autres. Et je pense que si on veut savoir un petit peu ce qu'on veut, il faut savoir qui on est. Et quand on a 14-15 ans, c'est hyper dur de savoir qui on est. C'est pour ça qu'on a voulu explorer d'abord qui est ce jeune, et puis l'accompagner, en parler avec lui, donner un peu cette confiance. Ben on espère en tout cas l'aider à faire son parcours personnel ou professionnel.
Je me tourne vers Lucas, ou Luca, préfère
Lucas.
Lucas, toi donc il y a eu une exclusion de l'école, ça veut dire que tu t'es retrouvé sans pouvoir finir ta scolarité obligatoire. Il y a eu de la panique chez toi, chez tes parents, ça s'est passé comment à ce moment-là?
Alors moi il faut savoir que j'ai eu comme Clara. J'ai fait une grosse dépression et j'ai fini en HP. Et du coup, je suis resté 10 jours. Pardon. 10 jours si je me trompe pas. Et là-bas, justement, j'ai eu de la chance. Vous en faites pas pour votre fille, madame. Elle est super bien accompagnée. Il y a des bonnes personnes. C'est bien encadré. Et du coup, quand je suis revenu à l'école, je leur ai clairement dit que je pouvais plus. J'avais du mal. J'ai saturé au bout d'un moment. Et du coup, ils ont vraiment compris, genre vers fin février. Et en fin février, du coup, ils m'ont viré. Et grâce à cette exclusion, j'ai pu prendre du temps pour moi. Et c'est justement ce que je recommande à votre fille, qu'elle prenne vraiment du temps pour elle, qu'elle commence vraiment à se dire, bah c'est pas si grave que ça, en final. Vraiment, tous les chemins mènent à Rome.
Décidément, ce Rome est très...
Oui,
j'adore.
Rome est à la mode.
Rome est à la mode, mais bon, c'est vrai, c'est vrai.
Vraiment, qu'elle prenne du temps, qu'elle s'amuse au final, qu'elle retrouve son sourire. Et puis voilà. Moi, je l'ai pas si mal vécu que ça, honnêtement.
Le passage en hôpital psychiatrique?
Non, du tout. Vraiment, ça a été un soulagement, honnêtement. Et puis voilà.
Merci beaucoup. Laure, vous vouliez ou vous aimeriez rajouter quelque chose?
Non, c'est parfait.
C'est surtout parfait de vous entendre et merci beaucoup. Il y a un message de la Madelon pour vous. Coucou Laure, rencontrée lors de Rando Chaussettes en 2017 où nous avions parlé de troubles du spectre de l'autisme. Généreuse, courageuse et grande tricoteuse. Bisous tout doux de Madelon. Voilà.
Ah merci.
Elle a téléphoné à Daniel. Et c'est intéressant d'entendre Madelon parler aussi de tout ça. Merci infiniment. On va accueillir d'autres téléphones, bien sûr. On l'espère tout au long de cette soirée. Merci, merci, merci de nous appeler sans autre au 0800 80 70 70 0800. 80 70 70. Vous pouvez communiquer avec nous par WhatsApp au 076 318 9649, ou alors nous appeler, enfin, communiquez avec nous par SMS au 939 pour envoyer votre message. Merci à Laure. À bientôt, Laure.
À bientôt.
Bonne nuit, merci. Au revoir. On va juste prendre quelques nouvelles de la route, écouter un titre et accueillir un nouveau téléphone. Et puis donner la parole à tout le monde aussi, parce qu'on a du monde autour de cette table. Donc ça va être une soirée bien dense et je m'en réjouis. Mais voici que la densité est aussi sur les routes.
Infotrafic RTS.
Sur l'A9 Martigny, Lausanne-Martigny, entre Villeneuve et Aigle, on signale des bouchons, des ralentissements en direction de Martigny, aussi des ralentissements dans la montée vers le col du Simplon entre Rothwald et Gaby, avec près d'une heure de retard. Il y a des ralentissements en France voisine. Le temps d'attente au péage français du tunnel du Mont-Blanc s'est réduit à 3/4 d'heure. Et sur l'A2 Lucerne-Chiasso, un embouteillage de 10 km est en place entre Erstfeld et le portail nord du Gothard. Cela correspond à une attente d'1h3/4 en direction du Tessin. On a envie de dire, attendez demain pour partir en vacances, quelques jours, parce que vraiment c'est la galère. Hein. C'est la galère, c'est rare quand même qu'il y ait tant de bouchons le soir, mais enfin c'est le départ. C'est l'ascension, non, demain,
oui.
C'est juste, absolument. Alors on vous invite à venir partager avec nous au 0800 80 70 70. Avec vous jusqu'à minuit. Je reviens juste sur le message de Julie qui dit pour les habitants de Blatone et environ, qu'est-ce qu'on attend pour lancer une action type chaîne du bonheur? Donc j'ai répondu à cette question. Il y a le compte de la chaîne du bonheur qui a été réactivé pour les intempéries en Suisse, et avec ceux qui restent en partie et ceux qui vont rentrer, on va pouvoir faire une aide d'urgence. Et puis elle propose de regarder avec la Croix-Rouge pour les habits, meubles, jouets, ustensiles et autres objets, surtout pas pour le moment, Julie. C'est pas le moment de se précipiter sur tout ça, puisque même, comme vous le dites, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais ils n'ont pas de maison pour l'instant. C'est pas le moment de récolter toutes ces choses-là, et puis de pas savoir ce qu'on va en faire. Je pense que le canton du Valais va coordonner avec l'aide de la Confédération, et puis la chaîne du bonheur sera présente aussi. Donc s'il vous plaît, ne vous précipitez pas. Je pense qu'il faut un peu de sang-froid dans ces moments-là, d'autant plus que malheureusement, il y a une personne qui a disparu, d'autant plus que le village a été évacué et que, ben, pour l'instant, mis à part cette personne qui a disparu, ce sont que des dégâts matériels et que là, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. On est en Suisse et en Suisse, ça fonctionne quand même bien, ce genre de choses. Et si ça ne devait pas bien fonctionner, rassurez-vous, on sera là avec la chaîne du bonheur. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ne nous précipitons pas dans des récoltes d'habits ou d'autres qu'on ne saura comment utiliser.
D'abord parce qu'on le fait sans que les gens disent ce dont ils ont besoin ou envie, etc., etc., etc. On revient à notre soirée spéciale autour de ce projet. Après l'école, on fait quoi? Un guide qui en parle. On va l'évoquer avec Virginie Huguet, qui est responsable de la transition école-métier dans quelques instants. Mais d'abord, on va accueillir la présidente de l'Association des parents d'élèves à Lausanne, Marie-Pierre van der Borck. Bonjour Marie-Pierre.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Marie-Pierre, en deux mots, est-ce que c'est une préoccupation de l'association de parents d'élèves que cette sortie de l'école obligatoire qui parfois est synonyme de pas de perspective, de pas d'idée, peut-être même parfois de pas d'envie, enfin où on sent qu'on ne sait pas ce qu'on va faire après l'école, quoi. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous ?
Alors pour les parents qui témoignent chez nous, oui, oui, bien sûr. J'ai envie de dire l'orientation de manière générale est une grande préoccupation des parents. Qu'elle soit déjà l'orientation au sein de l'école, hein, donc déjà VP, VG, mais aussi, oui, l'orientation post-obligatoire, oui, bien sûr, c'est une grande question, parce que les parents sont... Ben, c'est pas facile de s'y retrouver, de comprendre tous les enjeux, d'avoir toutes les informations qu'il faut, de faire le lien entre ce que le jeune a besoin et ce qui est proposé. Enfin, il y a beaucoup de choses, en tout cas.
Pas facile pour les parents... de ne pas mettre de pression sur leurs enfants et de ne pas sentir trop de pression de la part de l'école, je suppose.
Oui, oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a de la pression qui vient de toutes parts. Moi, ce que j'observe quand même, ce qu'on observe à l'association, c'est que oui, il y a une grande pression qui pèse sur les parents, simplement d'être des bons parents, quoi, et de bien orienter, de bien pouvoir accompagner. Donc, vouloir être dans ce rôle le mieux qu'on peut, ben c'est normal, mais c'est pas évident parce qu'en fait, on n'a pas toujours les compétences, les connaissances et que peut-être que cette représentation qu'on a de devoir bien savoir accompagner nos enfants, ben, elle nous fait manquer peut-être le fait qu'on peut demander de l'aide. Parce que c'est pas parce qu'on a soi-même traversé ça qu'on sait.
Et pas mal de messages sont arrivés pour dire, en gros, ce sont des vécus, hein, que à la sortie de l'école obligatoire, c'est en général un peu « Ok, maintenant, l'école, la société a fait son travail, débrouillez-vous.
» Oui, bon, je pense que non. Je pense qu'une société ne peut pas du tout se satisfaire de ça. Je pense que les jeunes, quand on a fini de les accompagner à l'école, ben, il reste encore tout un bout. Et cette transition vers le professionnel, c'est quand même un grand pas dans le vide. Donc, je pense que la bienveillance normale qu'on a, c'est de continuer à les accompagner, de les aider à trouver leur chemin. Et c'est pas simple. Il y a beaucoup de choix, en fait, hein, mais le fait d'avoir beaucoup de choix, ça facilite pas non plus toujours la compréhension et l'orientation et savoir ce qu'il faut faire. Et puis, de nouveau, j'insiste. Enfin, c'est vrai que je pense que d'une génération à l'autre, voire de deux, trois générations, les choses changent beaucoup, donc en tant que parent, ce qu'on a connu, ben voilà, on peut pas toujours se référer ou en tout cas se satisfaire de ça.
Ça, c'est quand même, comment dire, un syndrome que l'on retrouve beaucoup dans tous les grands débats autour de l'école, c'est que les parents, ils ont tendance à voir l'école en comparaison de ce qu'eux ont vécu. Est-ce qu'on arrive à l'éviter dans une association de parents d'élèves comme la vôtre ?
Mais on essaye en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'apporter le plus possible, c'est l'information quant au système scolaire, quant aux enjeux en fait qui sont actuellement présents dans l'école, parce que comme vous le dites, hein, on est tous experts de l'école parce qu'on est tous allés à l'école, donc c'est compliqué. Pourtant les choses changent, les attentes sont différentes, la pression sociale est différente, elle se manifeste par différents médias, par différentes réalités. Voilà, je pense que tout ça change beaucoup et que quand on est jeune parent, ben, on arrive avec ses acquis et puis il nous faut tout un temps pour comprendre qu'en fait ça a vraiment beaucoup changé. Et généralement, on a les parents qui ont des plus grands enfants qui nous disent, bah oui, c'est sûr, ça n'a plus rien à voir avec ce que moi j'ai connu. Donc voilà, il faut traverser ça pour se rendre compte parfois.
Absolument. Alors le stress, il est partout à l'école. Hein. On a entendu ce que disait tout à l'heure Laure par rapport à sa fille, mais il y a les devoirs à la maison, il y a les notes, il y a la pression scolaire. Et après, il y a nouveau un stress parce que quand on sort de l'école, il faut absolument trouver une perspective. Est-ce que ça, en tant que parent d'élève, on est conscient de ça, que l'école, finalement, ça devient une espèce de bloc monolithique de stress?
Oui, enfin, en tout cas, je ne sais pas si on en est conscient, si on arrive à tout analyser, on le subit en tout cas, parce que c'est vrai que la pression, elle est forte, hein, et je pense que pour les enseignants, la pression, elle est tout aussi forte de répondre à des attentes, à des programmes pédagogiques qui ont été décidés avec eux-mêmes, la pression qu'ils ont en tant qu'enseignants, ben, d'être les meilleurs enseignants possibles, de répondre aux impératifs. Je veux dire, la pression, elle vient de partout, les parents aussi, ils ont cette pression. Qui je suis en tant que parent, si mon enfant ne trouve pas sa place, n'est pas épanoui, n'est pas bien dans sa peau, j'aurais mal accompagné. Et ça, on l'a très fort, cette pression-là. Non seulement de la réussite de l'enfant, mais de son épanouissement. Et et en tant que parent, c'est vrai que, on veut pas échouer là-dessus. On se met beaucoup de pression, tout seul, mais la société nous en envoie beaucoup. Et évidemment, je vais dire un truc un peu bateau, mais c'est vrai que le fait qu'on soit en réseau, médiatiquement, il y ait beaucoup d'informations et beaucoup de comparaisons, ben oui, ça augmente la pression sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas, comment est-ce que les autres réussissent mieux ou moins bien que moi. On subit tous ça, malheureusement. Et c'est une pression qui est difficile à résister, quoi.
Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en tant que président de l'association de parents d'élèves à Lausanne dans ce contexte du stress, de la pression, puis aussi de la transition, hein, transition entre l'école obligatoire et d'autres études qui peuvent passer par le gymnase ou par la formation professionnelle, ou, trois petits points, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer selon vous?
Bon, vous me tendez une énorme perche, hein, parce que je vais vous dire, c'est la collaboration école-famille, je suis ultra convaincue. Je pense qu'on manque de se parler, on manque de pouvoir se dire ce dont on a besoin chacun, et en tant qu'enseignant, et en tant qu'école, pour pouvoir mener notre mission à bien, et en tant que parent, pour pouvoir dire où sont nos difficultés et nos besoins. Et en fait, on n'a pas d'espace pour ça. On n'a pas d'espace pour se rencontrer suffisamment pour dédiaboliser l'autre. Parce que, c'est évidemment, vous savez, on souffre. Hein, et la plus grande tentation, ben, c'est de blâmer l'autre. Hein. Donc, c'est d'essayer de sortir de ça. Et il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est se parler, c'est essayer de se comprendre, c'est faire baisser les peurs. Et puis construire ensemble. Je pense qu'il y a il y a beaucoup d'attentes sur le système scolaire. Vous le dites en termes d'orientation, mais aussi enfin de toutes sortes. Il y a l'école inclusive. Enfin, on peut mettre mille choses. Il y a beaucoup d'attentes sur l'école. Et moi, je suis convaincue que l'école ne pourra pas y arriver toute seule. Il faut qu'elle fasse des alliances. Elle essaye de faire des alliances avec les parents. C'est pas qu'elle veut pas, mais pour l'instant, les outils manquent, les espaces de rencontre ne sont pas suffisants.
Merci beaucoup d'avoir partagé un petit moment de notre soirée. Marie-Pierre van den Borg, vous êtes présidente de l'association de parents d'élèves à Lausanne. Merci infiniment.
Merci à vous, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Je vous rappelle que tout au long de cette soirée, on vous invite à venir parler de transition, en particulier de transition entre la fin de l'école obligatoire et la vie professionnelle ou la vie des études ou la vie tout court, voilà, n'hésitons pas à le dire. Et il existe un guide qui en parle, que l'on doit à la ville de Lausanne en particulier. Après l'école, on fait quoi? Et pour travailler sur ce concept ainsi que sur l'avenir de cette prévention, les jeunes sont intégrés et ils le sont aussi fortement aujourd'hui dans la ligne de cœur. Avec Aymeric, qu'on n'a pas encore entendu, sauf pour parler un petit peu tout à l'heure d'illustration 2D. Aymeric, vous avez fait l'école de la transition. Vous avez maintenant commencé cette formation. Donc, dans l'illustration 2D, on dit ça?
Animation.
Animation, pardon, je vais y arriver. Animation 2D, je vais noter que ça, c'est mieux. Ça a correspondu à quoi, l'école de transition pour vous? C'était une période où vous vous cherchiez un peu, c'était quoi?
Ouais, c'était ça. Donc, après l'école obligatoire, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais vraiment perdu, mais vraiment beaucoup. Et j'étais beaucoup sous l'influence de ma mère, qui me disait souvent de « Ah, faut sortir, faut faire ce genre de truc ». Et je la suivais, parce que je voulais pas la décevoir, en fait.
Oui.
Et du coup, bah, j'ai commencé l'école de la transition, puisque je ne savais pas ce que je voulais faire. Il y avait le stress aussi de trouver quelque chose qui nous donnait avec tous les cours qu'on avait à l'école, mais on trouvait rien en fait. Parce que c'est pas avec les deux stages qu'on a en 10e année et en 11e, je sais pas si ça a changé depuis, mais enfin bref. Et qu'on va trouver vraiment ce qu'on veut faire en fait. Du coup, l'école de la transition m'a vraiment beaucoup aidé pour ça. J'ai fait énormément de stages parce que c'est totalement le but de cette école en fait au final. Tout en gardant du coup des cours normaux genre français, anglais, maths. Mais c'est quand même hyper lié en fonction de ce que vous aimez, parce qu'il y a plusieurs variantes. Il y a ceux qui veulent plutôt aller dans ce qui est ce qu'on fait par exemple au gymnase, et ceux qui sont plus dans le manuel. Et du coup, après, tout le monde est un peu mis comme ça dans les classes différentes. Et donc, j'ai pu faire plein de stages dans des trucs que je pensais que ça allait être ce que je voulais faire plus tard. Mais pas du tout au final. C'était plutôt des trucs justement où c'était pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle m'avait dit « Fais ça, parce que c'est bien en fait. » Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et c'est là que mon père est arrivé. Et à ce moment-là, il a pu m'aider du coup pour à trouver plusieurs autres endroits où j'aurais pu potentiellement me plaire. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là en fait. C'est grâce à ça et à la découverte aussi de plusieurs écoles publiques ou privées qui sont dans des domaines très variés en fait. Il y a plein d'écoles comme ça. Et vraiment, heureusement qu'il a été là parce que sinon je serais tombé dans un apprentissage où j'aurais pas vraiment apprécié être là-dedans et ça m'aurait vite, pas énervé, mais dégoûté un petit peu. Et au final, j'aurais changé plein de fois, et puis là, ouais, non, c'est compliqué.
En fait, ce que l'on entend dans la bouche de Emeric, Virginie Huguet, responsable de la transition école-métier, c'est que la transition, c'est aussi un espace-temps qu'on doit pouvoir s'offrir, entre guillemets, est-ce que le terme n'est pas un peu exagéré, s'offrir ?
Oui, mais pour tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on fait avec cette question, justement. On a dit le « on », parce qu'on est tous concernés par cette question, à n'importe quelle période et moment. Et l'idée, c'est justement le « on », c'est d'en discuter, c'est de travailler ensemble. Moi, ce que je développe le plus, c'est des questions de réseau. C'est vraiment comment on travaille en réseau, comment on discute en réseau, comment on se met en réseau, parce que c'est là où on a des professionnels, des jeunes, des parents. Ce que disait Marie-Pierre, c'est un peu dans cet ordre-là, c'est qu'il faut qu'on réapprenne l'humain, la place de l'humain, ça paraît bizarre, mais c'est le meilleur réseau humain. Avant le réseau social, c'est le réseau humain, puis l'humain permet justement de se comprendre, d'échanger, de parler, d'entendre, donner du sens. Et puis sur cette question de la transition, qui est charnière, mais qui n'est pas un moment, il n'y a pas un avant-après, c'est une étape. Et si chacun raconte sa vie, puis c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est ce qu'on fait, on a fait ça avec Elaï, entre autres, c'est que quand on va dans les écoles secondaires et puis qu'on va à la rencontre des élèves, lors des forums métiers, des choses de cet ordre-là, on va pas parler dans un métier spécifique, on va parler des parcours. On vient avec des apprentis, des gymnasiennes, avec des élèves d'école de la transition, avec peut-être des jeunes en rupture. L'idée, c'est de pouvoir échanger sur montrer que personne n'a un parcours rectiligne. À aucun moment. Puis ça, c'est une histoire de génération, parce que je pense que n'importe quelle génération n'a jamais eu tellement de parcours rectiligne. Alors, des situations différentes dans les sociétés dans lesquelles on vit maintenant. La question de la certification est extrêmement importante. Puis ça, c'est vraiment un élément qui permet, c'est quand même un sésame pour rentrer dans la société, mais qui permet quand même de se dire que, parce que vous l'avez échangé avec nous avant, on peut avoir une certification d'avoir un apprentissage, mais ne pas exercer ce métier pour la suite.
Non, c'est vrai.
Mais ça nous a interdit dans le monde, dans la société. C'est une manière aussi d'entrer dans le monde. Puis ce qu'on cherche plutôt à faciliter dans cette question de la transition école-métier, c'est de continuer à savoir où c'est qu'on a envie d'apprendre. Parce que l'école, c'est toute la vie. Quoi, il y a l'école obligatoire, elle porte ce nom-là, mais après on continue à faire des études professionnelles ou des études académiques. Et puis après, au long de sa vie, on continue à se former normalement, on continue dans les expériences qu'on a, que ce soit dans de l'associatif, dans le sport, on continue à apprendre. Et plutôt, c'est de dire que normalement, l'être humain aime apprendre, puis c'est de voir comment on peut permettre de continuer cet apprentissage, que ça ne devienne pas des blocages, justement. En fait, tant qu'on est seul avec ça, puis qu'on on pense porter cette question seule, que ce soit des jeunes ou des parents, ça devient très problématique. Et l'idée, c'est vraiment de se faire rencontrer, discuter, échanger. Et puis, de nouveau, ce que disait Marie-Pierre, en tout cas dans le canton de Vaud, c'est qu'il y a énormément de choses existantes, mais par quel bout le prendre? Puis ça, c'est le travail qu'elle a fait aussi, justement, avec les jeunes. C'est comment on s'en sort dans cette tonnes d'informations, de professionnels, pour justement arriver d'une manière ou d'une autre à commencer un peu à dérouler cette pelote de laine pour reprendre un tout petit peu d'assise, cette possibilité d'agir.
Une brousse, disait quelqu'un, effectivement. En tout cas, on va en reparler dans la deuxième heure de cette émission, puis on attend vos témoignages au 0800 80 70 70 0800 80 70 70. Communiquez avec nous, n'hésitez pas, si vous avez des remarques à faire ou des questions, passez par notre WhatsApp, le 076 318 9649, 076 318 9649. Si vous préférez les SMS, attention, le SMS chez nous, il est payant, donc n'en abusez pas, vous pouvez l'envoyer au 939 cœur, un espace suivi de votre message. Si vous voulez participer avec nous ce soir, réfléchir avec nous ce soir, témoigner en fonction de ce qu'on a déjà évoqué depuis le début de cette soirée, c'est le 0800 80 70 70. Bienvenue.
Je repense souvent aux instants passés, à mettre des paillettes, me faire remarquer par toi et celle au colon néon qui criait fort au loin ton prénom. Je passais des heures pour t'aimer, enfin pouvoir te retrouver et passer ne serait-ce qu'un moment dans la maison de tes parents. Mais dès que tu as su que mon cœur partait en cavale, tu as saisi l'occasion vers ton escale.
Tu m'avais voulu. cœur de pirate dans la ligne de cœur au 0800 80 70 70 0800 80 70 70. Alors vous savez que c'est une soirée spéciale, mais c'est aussi l'occasion de partager avec vous, et merci à Laure d'être venue tout à l'heure à sa façon parler de sa situation familiale, et merci à vous de prendre le temps de partager avec nous et de nous dire ce que vous en pensez. On parle de l'école. Après l'école, on fait quoi? De la transition en général cette semaine. Vous êtes les bienvenus. Notre numéro 0800 80 70 70. En attendant, voici les informations. 23h.